Salut et bienvenue dans Pastèque, je suis Tanguy Pastureau, avec moi il y a Alex Vizorek.
C'est lui, bonjour Tanguy.
Et oui, deux belles personnes à l'âme pure qui ont remisé les idées préconçues qu'elles avaient sur internet pour mieux partir à la découverte du web.
C'est
Pastèque,
ça.
C'est un live sur Twitch, une émission de radio, Lulu est présente pour relayer vos messages, vos questions et vous refiler nos rips, parce que si vraiment vous nous aimez, bon, montrez-le quoi. Bonjour Lulu.
Bonjour.
Alors au programme aujourd'hui, il y aura notre revue de presse, on a lu les journaux
bien
pour
sûr.
Vous, on va recevoir Clara Runaway qui est créatrice de contenu spécialisé dans la vulgarisation sur le cinéma
exact.
Et les séries télé, popcorn à volonté. Mais tout de suite, on commence avec
le top de l'actu, évidemment.
Oui.
Tanguy Pastureau et Alex Vizorek sur France Inter, c'est Pastèque.
Première actu, Tanguy.
Oui, alors des influenceurs contre l'abstention des jeunes. Voilà ma première info. D'abord, alors rappelons que les jeunes sont des cons. Hein, la plupart du temps abrutis par la consommation de drogue, les jeunes sont sales, portent des survêtements et sentent la sueur. Passé 30 ans, la plupart sont toujours aussi cons, mais au moins ils gagnent en prestance. Voilà ce que vous me disiez hors antenne, Alex, sur les jeunes. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Certains jeunes, des modèles pour nous tous, puisque c'est elle à sauver la démocratie. Parmi ces jeunes, il y a des influenceurs. Vous savez, ces stars du net qui un jour ou l'autre seront invités dans Pastèque. Ce sera alors le moment de leur consécration. Avant, ils n'existent pour ainsi dire pas. Alors je vous explique l'histoire. Récemment, Marlène Schiappa a reçu dans son bureau des influenceurs. Vous avez vu ce truc-là ?
Bah, bien sûr.
Hein, avec sa proverbiale élégance, elle leur a dit « Bah alors les bolos, vous êtes suivis par les jeunes, ce serait pas mal que vous partiez à leur rencontre afin de les inciter à voter. » Elle a ajouté « À voter Macron, bien sûr, parce qu'il kiffe les jeunes. » Il a quand même offert un contrat de travail à Gabriel Attal. Hein, rappelons que Gabriel Attal finit actuellement son stage de quatrième. Et quelques semaines plus tard, alors ce sont quatre influenceurs qui, là, descendent dans la rue en ce moment pour lutter contre l'abstentionnisme. Alors on a Vargas, 1,4 million d'abonnés sur Instagram, Crazy Sally, 639 000, Alexandre Gigot, 541 000 et Laura Pétard, 428 000. Alors attention, ce sont des pseudos. Laura Pétard, en réalité, s'appelle sans doute Marie The Chichon. Donc, ils font des petites vidéos dans la rue pour demander aux jeunes s'ils votent et surtout pour leur dire que c'est important de voter. Et c'est vrai, parce que si vous ne faites pas de soirée un petit peu coquine, c'est la seule fois de l'année où vous cacherez derrière un petit rideau. En tout cas, c'est une belle initiative. Et allez voter, les jeunes, au lieu de vous plaindre, comme le dit souvent Alex à votre propos.
Alors moi, je vais vous parler de Valérie Pécresse.
Parce que
vous vous souvenez le meeting? Le meeting, on lui a reproché, on lui a dit « Valoche, il aurait fallu te faire coacher ». Ça, on l'a beaucoup entendu.
Le pire, c'est que ça a dû se passer. Il y a dû avoir des coachs.
Et j'y viens, parce que l'info, je la tiens.
Oh là.
Les coachs ont été discrets, je crois. Et ici, dans le monde du 17 février, nous apprenons qu'en fait, elle a bien été coachée pour son meeting. Et par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Benoît Solès, qui a fait la machine de Turing, la pièce qui a eu un succès considérable.
Oui.
Et qui était engagé en politique, qui était LR lui-même, donc c'est pas un hasard s'il l'a aidé.
Vous
et
voulez
un avocat.
Dire qu'il y a une personne dans le théâtre français actuellement qui est de droite.
Exact. Et il a eu tous les Molières. Je crois que c'était l'année où je l'ai présenté.
Donc on lui a demandé de les rendre, au moins. Parce que c'est fou.
Oui. C'est que les gens de gauche ont voté pour lui.
Ah, c'est fou.
Un ténor du barreau, Francis Spinner.
Oui, bien sûr.
Voilà. Les deux l'ont coaché. Et les équipes de Valérie Pécresse ont expliqué qu'en fait, le problème, c'était la salle.
Comme au tennis.
Voilà.
T'as la lumière dans les yeux.
C'était pas la bonne surface. Exactement.
Mais, la salle était grande. Hein.
Et pas le théâtre Michel. Donc le son lui revenait. Oui, mais oui.
C'était pas pareil que dans le petit théâtre à Saint-Mamère. Mais bien sûr.
Et oui, mais ça, c'est quand on commence au point virgule.
Ben oui.
Et que d'un coup,
on se retrouve au zénith.
Dans un gala à Montreux.
Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ma carrière Quel rapport?
On est perdu.
Alors attention, nouveau sujet, pile avalée par les enfants, la Haute Autorité de Santé constate une augmentation des cas. Alors d'abord, rappelons que les enfants sont des cons. Hein, en tout cas, c'est ce que vous me disiez hors antenne, Alex. Et pour une fois, je suis d'accord avec vous, parce que comment expliquer sinon cette hausse drastique du nombre d'enfants qui mangent des piles ? Sons de jeunes femmes de Fabien Roussel qui se disent tout avaler plutôt que des graines. On ne sait pas, mais la Haute Autorité de Santé tire l'alarme, de plus en plus d'enfants avalent
des piles,
plus 180%. Or, la pile, rappelons-le, ne fait pas partie des 5 fruits et légumes à manger par jour.
Hein,
pour retenir ce conseil alimentaire, retenez bien cette phrase qui est simple, moyen mémotechnique, fruits, oui, pile, non. Alors, que faire si votre enfant avale une pile ? Bon, déjà, le mettre à l'adoption, hein, parce qu'il n'y a aucune raison que vous fassiez un timbré pareil. Ensuite, il faut, alors ça c'est très sérieux, les médecins le disent, le laisser à jeun sans tenter de le faire vomir et appeler le 15. Vous dites bonjour, mon fils a avalé des piles. Hein, on vous répond, je sais, j'écoute Alex Vizorek, je suis formel, votre fils est un con. Vous dites, je sais, mais avec ce qu'il m'a déjà coûté, je vais quand même pas l'abandonner maintenant. Et les services de secours feront le reste du travail. Il faut surtout pas chercher à faire recracher la pile. Voilà, parce qu'elle pourrait se coincer ailleurs. Alors sinon, deuxième possibilité, partir vivre dans une ZAD où il y aura que des jouets en bois. Hein. Par contre, voilà, le danger est que votre enfant, du coup, avale une branche de chêne ou des poils d'aisselle. Bref, la seule solution, en fait, je l'ai trouvée, c'est de ne pas avoir d'enfants. Ben, ah, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour eux et c'est mieux pour le monde des piles.
Alors, ma dernière info pour relier avec notre invité, car nous avons l'une des plus grandes vulgarisatrices de cinéma. Est-ce que je ne me trompe pas?
C'est dur à dire, vulgarisatrice. Ouais. C'est ça le problème.
Mais non, enfin, voilà,
elle aurait pu faire autre chose quand même comme métier pour nous faciliter.
Une cinéphile qui fait des vidéos pour nous donner envie de regarder, d'aimer et de connaître et de juger le cinéma sans s'estimer jugé parce qu'on ne connaît pas tous les films.
Et les séries.
Et je suis tombé sur un article dans le Parisien d'aujourd'hui. Ah. Fini les happy ends. Alors, ça n'a rien à voir avec votre salon de massage, Tanguy, parce que je le vois tout de suite. Oui, mais je le connais, c'est le genre... pas tout de suite voir que j'étais dans les pages culture.
J'aime bien les papouilles.
Appelez ça les papouilles.
Les papouilles.
Et donc, en fait, avant, ça se terminait toujours avec Bruce Willis, normalement, qui sauve le monde.
Oui, c'est vrai. C'était bien, d'ailleurs.
Du coup, on connaissait la fin, mais on était tristes, ça n'arrivait pas. Et ça arrivait quand même toujours. Ils expliquent que les Américains ne croient plus aux happy ends, notamment depuis le 11 septembre. Et le côté soldat américain qui sauve le monde n'est plus vendeur. Résultat, les scénaristes s'adaptent. Sentiment partagé. Donc, à la fin du film, vous partez. Certains personnages auxquels vous étiez attachés meurent, on les pleure. Mais bon, il y a toujours une petite lueur d'espoir quand même. C'est jamais complètement négatif. Et par exemple, Batman de Christopher Nolan, qui ne finit pas aussi bien,
ça finit pas bien
que les précédents de la franchise. Et ça, on en parlera parce que je suis absolument certain qu'il va être invité à un avis. On se retrouve après la musique avec Clara Renouet.
Pastèque, Pastureau, Vizorek sur France Inter.
Voilà pour ce top de l'actu. Tout à l'heure, on fera la grande revue de presse et Tanguy.
Ouais.
Un pastèque m'a demandé de lire Playboy. Moi, ce sens du sacrifice.
C'est ça.
Bien sûr que je l'ai fait.
Quelle
abnégation. Mais entre les deux, évidemment, il y a notre invitée Clara Renouet, star de la vulgarisation cinéma sur Internet. Mais avant ça.
On va écouter Sopico. Quand c'est trop, c'est Sopico. Avec Passage.
Vous les avez bien vendus.
Ça fait 2 ans que ma vie, c'est un Tarantino. Trop de poison, tout le monde aura pas l'antidote. Oui, je peux le faire pour un frère. Ma loge est garée près du studio. Je suis engagé pour un vrai rôle. Imagine un tout petit carré, je peux pas finir bloqué, c'est bien pire que la mort. Je deviens fou si j'arrête, faut faire du tri chaque jour pour que les soucis s'allègent. C'est dans les yeux quand on me parle, je connais des gens qui pèsent, d'autres comptent des petits salaires. Un VS1 dans le parc, mais je me sape en marnie en Gucci Chanel. Si je devais prendre le minimum, je partirais avec tout le monde sauf les fils de pute. Les questions, on voit ça plus tard. Souhaite-moi de toucher le but. Sa cuisine, donc c'est imminent. Je peux jurer, personne ne va jouer la victime. Avant, fallait serrer la ceinture. Maintenant, je viens tout prendre dans la vitrine. Combien de fois on a tout plié? Combien de jours sans bourbier? Combien de visages oubliés? Avant de partir. Combien de fois on a tout plié? Combien de jours sans bourbier? Combien de visages oubliés? Avant de partir. Je suis dans mon bel, y'a pas de code, je trouve pas la maison. Et puis, j'ai plus de CP, j'ai plus de tel, et plus le réseau. Et puis, si tu me cherches, c'est que t'as le temps, perdu la raison. Pas besoin de blanc, frère, t'as capté, je suis ailleurs en vrai. Je suis dans mon bel, y'a pas de code, je trouve pas la maison. Et puis, j'ai plus de CP, j'ai plus de tel, et plus le réseau. Et puis, si tu me cherches, c'est que t'as le temps, perdu la raison. Pas besoin de plan, frère, t'as capté, je suis ailleurs en vrai. Je vais faire numéro ou ne veux qu'un morceau qui n'a aucun sens. Faire le zinzin dans le TX comme si j'avais 15 ans. Péter la maison, le jet, le duplex en plein centre. Retour à la case départ, on me réveille en pinçant. Combien de fois on a tout plié? Combien de jours sans bourbier? Combien de visages oubliés?
avant de partir.
C'était Sopico sur France Inter avec Passage. Nous sommes toujours avec Lulu qui récupère vos messages. Nous sommes avec Tanguy Pastureau. Et qui nous a rejoint, Tanguy?
Eh bien, Clara Runaway, qui est créatrice de contenu spécialisée dans la vulgarisation sur le cinéma et les séries télé. On va sortir le popcorn pour elle parce que oui, il est de nouveau autorisé de manger du popcorn.
Oui.
Ça y est, ça y est. Bonjour, Clara.
Bonjour, Tanguy et Alex. Ah, je suis très contente d'être ici.
C'est pas vrai. C'est la première invitée qui nous dit ça.
Oui. Qui est content d'être là?
Oui, les autres étaient
angoissés. Qu'il exprime. Parce que les autres
ils n'étaient pas contents d'être là. Ils étaient un peu plus intériorisés, quoi.
Voilà. Il a dit les jeunes sont bêtes. Donc j'espère que vous êtes là pour nous prouver le contraire. Car vous êtes, on peut le dire, jeune.
Oui.
25 ans, critique cinéma, c'est-à-dire que vous êtes la Remo Forlani jeune.
Bon, alors là, il faut vraiment expliquer.
Ouais, c'était le critique cinéma qui détestait tout sur RTL.
Pendant longtemps.
Mais vous faites des vidéos sur ce que vous aimez et vous donnez goût au cinéma. Comment vous est née cette passion de la cinéphilie et puis comment vous êtes passé à la transmettre et donc par les réseaux?
Bah écoutez, en fait, moi, ma cinéphilie, elle est venue très très tard parce que bah, quand j'étais plus jeune, mes parents n'allaient pas du tout au cinéma, c'était pas du tout ancré dans ma culture. Et vraiment, mes bases, c'était High School Musical, Disney Channel. Donc, je vais pas vous vendre un truc comme ça fait depuis que je suis née, j'ai un peu Godard dans la bouche.
Il y avait déjà
cinéma.
Des images qui bougeaient. Quoi.
Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, c'était vraiment un engouement pour les images, mais c'était pas particulièrement pour le cinéma. Et puis, je suis partie en Corée du Sud, et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au cinéma en tant que tel. Et j'ai adoré, en fait, partager la passion avec d'autres personnes qui me conseillaient du cinéma coréen. Et puis, en rentrant ensuite en France, j'ai commencé à dévorer des films, à en voir mes pleins, et puis surtout de plein de sortes différentes, et à découvrir le plaisir de la salle et l'expérience de la salle.
Vous avez fait le chemin inverse des cinéphiles normaux, c'est-à-dire que vous avez aimé le cinéma par le cinéma coréen.
Ouais.
En général, c'est les cinéphiles qui aiment d'abord le cinéma, et puis ils vont vers le cinéma coréen.
Moi, j'ai d'abord découvert les films par des plateformes, plus que par le cinéma en lui-même, en fait. Et je pense que c'est un peu symptomatique d'une génération, c'est-à-dire qu'on découvre maintenant beaucoup du cinéma par des plateformes, et ensuite on s'intéresse au cinéma de manière plus générale. Ce qui est plutôt cool parce que j'essaye de le retransmettre sur ma chaîne et je crois que les gens sont là et que ça va.
Justement, le fait d'avoir tout ce contenu, c'est aussi une forme de sélection, de petite sélection que vous faites pour les gens parce qu'on est un peu perdu aujourd'hui avec tout ce qui arrive.
C'est une forme de sélection, oui, surtout que je le fais en fonction d'un mood en général. Par exemple, des films pour bien débuter dans le cinéma coréen comme j'ai pu le faire là dernièrement.
Est-ce qu'on peut l'écouter?
Oui, totalement.
Comme ça,
totalement.
Les gens vont
avec
bien.
Plaisir.
Ouais,
avec
les gens vont bien savoir de quoi on parle.
Il y a quelques années, je suis partie en Corée du Sud pendant un peu plus de 6 mois. C'était à la fois très long et très court, mais c'est surtout là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au cinéma. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 films pour bien débuter en cinéma coréen. J'ai essayé de ratisser large dans ce que j'aime, histoire d'avoir autant des basiques que des pépites, parce que vraiment, c'est pas évident du tout de s'y retrouver quand on s'y connaît pas. Alors certes, j'adore la filmo de Monsieur Bong Joon-ho et Mademoiselle de Park Chan-wook, mais tranquille, on n'est pas obligé de regarder des boutons cousus dans la nuque de quelqu'un pour kiffer le cinéma coréen. Ou voir que du sang, du gore, du cru, même si je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Le premier film dont j'aimerais vous parler, c'est Seul sur la plage la nuit de Hong Sang-soo, ou le réal qui rend le rien intéressant.
Clara Runaway sur YouTube, 145 000 abonnés.
Ouais.
YouTube.
Non,
c'est mignon.
Moi,
YouTube.
Parce que je parle très très bien les langues étrangères. Pas tant le coréen, mais le YouTube.
Il n'y a que les vieux qui disent YouTube.
Vous voyez comment on est traité, Clara, par cette jeune Lulu.
elle vous rappelle à l'ordre.
Oui, elle nous rappelle qui on est. Si vous voyez, on fait une incartade dans les milieux jeunes. Vous dites, et moi j'aime bien ça, c'est-à-dire que vous dites, c'est pas parce que j'ai pas vu ou pas aimé 2001 Odyssée de l'espace, et malgré ça vous dites, je peux m'intéresser au cinéma, le cinéma c'est aussi pour moi. Et c'est vrai qu'il y a tendance à une exclusion intellectuelle des grands cinéphiles.
Oui, c'est vrai que, en tout cas sur Internet, il y a un peu cette réputation de si on est cinéphile, ça veut dire qu'on est très sélectif et qu'il faut avoir un background forcément culturel. Sauf que le problème, c'est que ce background culturel, on ne peut pas l'acquérir comme ça. C'est pas inné, quoi. Enfin, je veux dire, tous les gens qui font un peu de vulgarisation autour du cinéma, ils sont bien documentés quelque part à un moment, ils sont bien partis d'un point zéro. Et puis aussi, les films, de manière générale, les bons films, il faut les trouver, il faut les chercher, et ça prend du temps, et puis pas tout le monde a le temps de se faire une culture forcément cinéphile incroyable. Je crois que c'est aussi ce que les gens sur ma chaîne cherchent, à savoir être curieux, rester curieux et trouver des nouvelles pépites cinématographiques.
Les vidéos que les gens regardent le plus, c'est vos conseils, vous donnez les conseils par 4.
Oui.
4 films pour entrer dans le cinéma coréen, 4 films à voir ici ou là. Et donc, si vous deviez faire les 4 Godard vraiment à voir,
Alors j'en ferai pas quatre, j'en ferai qu'un seul. Je ferai Une femme est une femme,
ah,
parce que c'est le seul que j'ai vraiment, vraiment, auquel j'ai vraiment accroché. Autrement, j'ai un peu du mal avec le style de Godard. Ah, mais alors que je suis une grande cinéphile. Non, hein,
mais il faut. C'est dans la cinéphilie, il y a des débats où personne n'aura jamais raison.
Oui, oui, c'est ça. Mais en plus, on n'a pas besoin d'avoir raison. En fait, c'est ça la. Ça, le propre de la chose, c'est que, encore une fois, sur Internet, il y a beaucoup de critiques cinéma, beaucoup de gens qui parlent de cinéma pour donner leur avis, mais qui très souvent le font avec un jugement derrière. Et moi, justement, j'essaye plutôt de interroger et d'intéresser les gens.
Lulu, on nous dit quelque chose sur le chat ?
Alors, quel est ton meilleur film de 2021 ?
Oh, c'est dur. Je dirais là, comme ça, ce qui me vient en premier, c'est Last Night in Soho, qui est un de mes préférés. Donc, le dernier Edgar Wright, du coup. Et qui était vraiment incroyable, mais parce qu'il y a Anya Taylor-Joy aussi dedans, donc c'est un peu biaisé.
Alors, ouais. les gens ont commencé à acheter des films coréens depuis qu'on a passé l'extrait.
Voilà. J'ai pas pris d'action chez Joker's Film, c'est dommage.
Pour revenir sur les happy ends, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous aviez constaté ça dans le cinéma américain ?
J'avoue, je me suis pas trop documentée encore sur le sujet ou quoi, mais oui, effectivement, c'est une tendance qu'on remarque ces derniers temps beaucoup.
Je dis ça parce que vous aimez bien les anecdotes et ce qui entoure. Ça aussi, c'est votre spécificité.
Oui.
Dans vos vidéos, vous avez bien parlé de comment c'est financé, de comment ça se fait, de pourquoi on fait tel ou tel film. Comment ça vous est venu ? Est-ce que c'est parce que vous aimez vous avez toujours aimé ça, les autour du cinéma, ou c'est parce que justement vous trouvez qu'on comprend mieux quand on sait ce qui se passe sur le côté ?
Je sais que quand j'étais petite, mon père voulait que je regarde absolument les making-of et je ne le faisais pas.
J'adore les making-of dans les DVD. Si vous auriez été ma fille, j'aurais obligé à regarder. En fait, je regardais le film pour pouvoir trouver le making-of intéressant.
Ça, mon père, il faisait beaucoup ça avec certains films. Ouais, ouais.
J'adore votre père.
Quand je commençais à m'intéresser au cinéma, j'ai voulu m'intéresser à son fonctionnement de manière générale parce que je me suis dit que la production déteignait forcément sur l'œuvre en elle-même. Et j'ai commencé à me poser des questions hyper générales et j'avais envie de partager ces questionnements avec tout le monde. Sachant que j'ai fait des études universitaires assez poussées, du coup, j'avais une méthodologie qui me permettait aussi de faire des recherches là-dessus. Et puis après, en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein d'anecdotes dont personne ne parlait. Et ça me scandalisait un peu parce que j'étais là comme...
Vous êtes devenu votre père. Et voilà comment. Alors vous avez
critiqué, c'est ma psychothérapie.
Voilà,
le chat, vous pouvez le dire. Hein, clairement, c'est une séance de psy actuellement.
On va écouter un extrait parce que vous l'avez fait pour Indiana Jones.
Tu savais, pour les aventuriers de l'Arche perdue. Déjà, Indiana Jones s'appelle Indiana en référence au chien de George Lucas. C'était un malamute d'Alaska à poil long qui, assis à l'avant de la voiture, ressemblait à un ours tellement il était imposant. D'ailleurs, c'est lui aussi qui a inspiré le personnage de Chewbacca dans Star Wars, et on comprend pourquoi. Mais justement, avant de tourner ce petit film d'auteur qu'est Star Wars, Lucas avait commencé à écrire Indiana Jones avec Philip Kaufman. En réalité, l'idée remonte même bien avant ça, à l'époque où Lucas regardait des serials du samedi après-midi. Les serials aux États-Unis, c'était un long métrage découpé en plusieurs épisodes et diffusé chaque semaine en salle, en première partie d'un long métrage. C'est littéralement les prémices des séries qu'on a aujourd'hui, mais version cinéma. Et Lucas avait deux projets en tête qui s'en inspiraient. L'une étant l'histoire d'un archéologue qui voyage à la recherche d'antiquités à travers le monde, ça vous dit peut-être quelque chose. Et une autre à la Flash Gordon, un serial très connu de l'époque, qui parlait d'extraterrestres. Donc, une fois que Star Wars était sorti, littéralement juste après, Steven Spielberg et George Lucas partent en vacances. Cette phrase est incroyable, j'ai l'impression de vous raconter le début d'un conte pour enfants.
C'est votre série marque de fabrique. Et tu savais pour ?
Ouais.
Point d'interrogation, c'est pour ça aussi que vous êtes connu. C'est une des sous-séries de votre chaîne, Clara Runaway sur YouTube. Voilà. Non, je voulais voir.
Moi, j'ai du progrès.
Ouais, c'est le YouTube marseillais, ça. YouTube.
Alors, YouTube.
On aura plusieurs accents pendant tout le long de l'émission, c'est ok.
Parce que moi, j'adorais les anecdotes et je voulais vous en raconter une qui m'avait tellement plu. Peut-être vous la connaissez. C'est à la fin d'un Hitchcock, donc dans un making of de Hitchcock, il y a sa nièce qui parle et qui dit en fait qu'elle faisait des études de cinéma. Et un jour, on lui demande d'analyser un film de son grand-oncle. Et donc, elle rentre à la maison hyper contente en disant « Est-ce que tu peux m'aider à analyser ?» Et donc, Hitchcock l'a aidée. Et elle revient la semaine d'après avec sa note. Et en fait, on est noté en lettres aux États-Unis, donc A le mieux.
Comme les Nutri-Score aujourd'hui pour les biscottes.
Et Hitchcock a répondu qu'il était content de lui parce qu'il dit « We've got a B ». Donc Hitchcock lui-même a eu B pour l'analyse de son film. Le professeur trouvait qu'il n'avait pas quand même analysé de manière aussi impressionnante que ça pouvait être. Il n'a peut-être pas tout compris à ce que lui-même avait voulu faire. Et vous allez voir, moi je suis vraiment sympa, mais celui qui l'est un peu moins, c'est Tanguy qui fait des quiz.
numéro 1, le grand quiz des anecdotes ciné. J'ai donc trouvé des anecdotes sur des grands films cultes. J'ai ajouté de fausses anecdotes, car je suis un pervers, le mal est en moi. Et vous allez me dire si ces anecdotes sont vraies ou pas. On y va ?
C'est parti.
Comme ça, on va prendre des trucs ensemble.
Ok, allez, participe. Donc, allez, c'est parti.
Joue, mais nous aussi, on va essayer.
Attention, lors de la dernière scène de Grease, Olivia Newton-John a cassé la fermeture éclair de son pantalon.
Je dirais que c'est vrai.
Moi aussi. Eh bien, vrai. Ouais. Bravo, puisque le pantalon, souvenez-vous, était serré.
Ah, oui, oui, bah
très,
oui.
Très serré.
Celui de Travolta était presque
trop
encore
serré, serré peut-être. Oui, oui. Bref, pardon, mais j'ai vu Grease à 15 ans, je n'avais pas les mêmes priorités qu'aujourd'hui. Attention, lors du biopic sur DSK Welcome to New York, Gérard Depardieu a cassé la fermeture éclair de son pantalon.
Oh, non. Je pense très concrètement voilà. Que non, mais.
Alors, vrai, ou faux, parce que ça pouvait être dans le scénario, bien sûr. Ah, mais on ne sait pas si c'était sous l'effet de l'excitation ou du catering. Attention, les cris des brachiosaures dans Jurassic Park sont une combinaison de cris d'âne et de baleine.
Alors, il me semble qu'il y a aussi des tortues.
Ah, peut-être.
Oui, il me semble qu'il y a des tortues en train
donc
de
jouir. Hein.
Ouais, il me semble que c'est voilà. Vrai, mais qu'il y a des tortues.
Vraie
en
anecdote,
plus.
Ils ont mélangé ouais. Les cris d'animaux. Attention, les cris de Céline Dion dans Aline de Valérie Le Mercier sont une combinaison de cris de caribou et de bûcheron québécois qui, par inadvertance avec leur tronçonneuse, viennent de se couper un bras. Eh bien, c'est.
C'est évidemment vrai. Non, c'est faux. C'est faux.
C'est faux.
Ah,
c'est
j'avais
faux.
Envie.
Attends,
j'avais
envie.
Ah. Votre film culte, Alex, les séquences complètes de 2001, l'Odyssée de l'espace, durent plus de 200 fois la durée du film.
En ressenti,
oui. En oui,
non,
voilà,
les
j'allais
séquences
dire
complètes,
ça, j'allais
tout
dire.
Ce qu'il avait comme matière.
Ah, ça, c'est bien. 200, oh, oui, c'est bien
200
possible.
Fois, oui. C'est bien possible. Eh bien, c'est vrai. Mmh. Vrai, c'est fou, hein, quand je pense que notre réalisateur se plaint quand il doit monter pastèque pour la diffusion radio. Bref. Attention.
Des bisous à notre réalisateur.
Allez, deux dernières. Bruce Lee était tellement rapide que certaines scènes de ses films étaient ralenties au montage pour qu'on puisse voir ses mouvements.
Oh.
Ça, je pense, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Ah, voilà. Ouais. Il faut savoir que les propos de Laurent Dutch sont également ralentis. Je vais saisir les tenants et les aboutissants de la vie d'Aliénor d'Aquitaine. Enfin, King Kong était l'un des films préférés d'Adolf Hitler.
J'aurais tendance à dire oui. Hein.
Ouais.
Franchement,
ouais.
Au vu
ça correspond à l'époque en plus.
Ouais, 33, ouais.
Voilà,
le premier.
C'est ça. Il adorait King Kong, même s'il trouvait ce singe pas assez blond. assez blond. Mais voilà, effectivement. Même Hitler avait un film préféré, vous voyez.
Vous êtes le 3.0, enfin, c'est-à-dire que vous-même, vous avez déjà consommé les premiers youtubeurs parlant de cinéma, et puis vous avez aimé leur façon de bosser, et vous avez essayé de la sublimer quelque part.
En fait,
ou de la rendre plus proche de vous.
Oui, oui, en fait, je pense que moi, je fais partie de la génération qui a grandi avant Internet. J'ai connu les vidéos sur Internet avant de connaître le cinéma même. Donc c'est vraiment. C'est vraiment fou de se dire ça maintenant, mais c'est le cas.
C'est pour nous que c'est le plus
oui. Fou. C'est un peu dur comme propos.
Ça nous met un coup de bâton.
mais oui, j'ai d'abord connu les vidéos sur Internet, la fiction sur Internet aussi. Moi, mes références quand j'étais plus jeune, c'était What the Cut, SLG. Et voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Donc forcément, ça a déteint aussi sur mon travail après, sur mon envie surtout. En fait, mon envie principale, c'était de partager avec les gens et de pouvoir partager ma passion avec les gens. Et aujourd'hui, je suis très contente d'intégrer... cette génération et de faire partie un peu du renouveau de YouTube, ça me fait vraiment plaisir.
Lulu, le chat.
Alors, les gens sont en train de se poser des questions sur ta posture dans les vidéos. Est-ce que tu n'as pas le mal à la nuque?
Non, je n'ai pas mal à la nuque.
Bon,
j'ai
va,
une nuque
alors.
Extrêmement costaud, il faut le savoir. Non,
très bien.
Tout va bien. J'ai
après,
une forme physique olympique.
Après, ça change avec l'âge, parce que moi, là, déjà, je suis au trois quarts.
Vous aviez une nuque très costaud il y a une quinzaine d'années.
Pour, là, j'étais. J'avais une
nuque. Je vais finir comme ça dans 10 ans.
Faites attention. Super. Les gens ne parlaient que de ma nuque.
Voilà, c'est ça.
Monsieur Nuque, il m'appelait.
Des donc, voilà. Nouveaux formats style vlog cinéma ou ce genre de choses, toi, ça te dirait d'en faire ou pas du tout?
Vlog cinéma, tu veux dire plus sortir...
Sortir et avoir des réactions à chaud, enfin vraiment donner envie aux gens, aux jeunes, de retourner au cinéma, en tout cas vraiment de vivre l'expérience salle, en
ouais.
Fait, qui est vraiment différente de celle des plateformes. Pour le
oui,
coup.
Oui, c'est clair. En fait, j'aime bien dire que les deux s'entrenourrissent. Mais j'aimerais bien aussi, oui, pouvoir faire peut-être même des événements qui sont dans des cinémas, faire des projections vraiment en cinéma où on se retrouve et puis après on fait une projection débat. Le problème, c'est qu'installer, c'est un peu compliqué avec les conditions là, même si ça se
oui,
calme.
C'est vrai.
Mais inciter les gens à aller en salle, moi je le fais sans vraiment le faire, à savoir quand je suis par exemple sur Instagram, je vais partager un film que je suis allée voir ou quoi, et je vais dire waouh, il était vraiment trop bien, aller le voir en salle, et j'estime que c'est une forme d'influence entre guillemets pour que les gens puissent le découvrir dans des conditions
optimales.
Voilà.
Ouais.
C'est vrai que parfois on est stimulé par des films. Ouais, hier j'étais nerveux, j'ai regardé Fight Club. Bon, à la fin j'étais pas bien quoi. Voilà.
Oui.
Là je pense qu'il fallait pas me parler ou me faire boue comme ça parce que j'aurais surréagi.
Donc
il faut faire attention.
Allez déjà vous abonner à la chaîne de Clara Runaway comme ça dès que la vidéo arrivera sur les films.
Réconfortant, bien sûr.
On sera prêt quoi.
On a besoin de ça.
Deuxième quiz bien sûr.
Oui absolument. La
Bougez-vous.
Voilà, parce que d'où Jésus. Clara, vous le savez, le sens de la formule, c'est important, et vous-même, vous êtes associé à jamais à la petite phrase « et tu savais pour ». Alors, qui certainement va vous coller à la peau jusqu'à votre mort. Voilà. Alors, pour rester dans le thème, on vous propose une série de répliques cultes du cinéma, tellement cultes qu'elles en sont devenues insupportables, et vous devez nous dire à qui ou à quel film elles sont liées ad vitam aeternam et parfois ad nauseam. Attention, Clara, si je vous dis, vous savez quoi ? Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous me répondez ?
Ah bah, Otis dans Mission Cléopâtre.
Oui, bravo.
Edouard Baird.
Alias Edouard Baird.
Le pauvre, lui aussi, ça doit lui coller à la peau.
C'est ça.
Encore,
Exactement. Ouais. On l'a eu il n'y a pas longtemps à la bande originale de Nagui. Il y a encore quelqu'un qui l'a fait. Ouais. Frankly, my dear, I don't give a damn. Ou en français, pour ceux qui ont fait allemand LV1. Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Oh. Ça, je connais.
On peut avoir des...
Ah. Vas-y. Je connais.
Alors
autant n'importe le vent.
Oui.
Ah, oh,
voilà,
c'est oui.
Rhett Butler, oui, alias oui. Clark Gable, à Scarlett O'Hara, Vivien Leigh, dans autant n'importe le vent. Ringo, touffe ton sac en plastique, trouve-y mon larfeuille. C'est lequel ? Celui où il écrit « Bad Motherfucker ». Vous avez fait les Tarantino.
Oui.
Et c'est dans Pulp Fiction.
Bah bien
c'est
sûr.
Oh là là,
bien sûr.
Qu'est-ce qui se passe ici ?
J'ai honte. J'ai honte.
Jackson.
Je pleure.
Qu'est-ce qui se passe ?
Voilà.
La vie c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais
sur quoi.
Forrest Gump. J'aime respirer l'odeur du napalm au petit matin.
Ça c'est pour Apocalypse.
Apocalypse Now, bravo, Bill Kilgore joué par Robert Duvall. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Peut-être du Spider-Man éventuellement.
C'est du Spider-Man. Benjamin Parker dans Spider-Man, bravo. Et enfin, tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Clint Eastwood.
Bravo Alex, alias le...
Bon.
Le Bon, dans L'Homme sans nom. Ou L'Homme sans nom, pardon. Ah. Dans Le Bon, la brute et le truand. C'est
sûr.
Ça, bravo quand même.
Non, moi, bravo le chat parce que je
trouve qu'on est très complémentaires.
Tout à l'heure,
à deux, on a presque tout trouvé.
C'est Hugo Kuhn qui a préparé ce quiz. Tout à l'heure, je l'ai fait hors antenne. J'avais que trois bonnes réponses. Voyez,
c'est pour ça que vous êtes au questionnement dans les
Absolument.
Quiz. Parce qu'on
Absolument.
Se dit, il va être meilleur à poser les questions.
Voilà.
C'est votre métier à 100% vidéaste, youtubeuse aujourd'hui ?
Oui, totalement. Créatrice de contenu, totalement. Alors, ça va faire un an et demi que j'en vis.
Et vous bossez seule ? Vous n'avez pas d'équipe ? Vous faites.
Oui,
je vous déléguez peu de choses apparemment parce que vous aimez. Contrôler.
C'est que j'aime
c'est ce
beaucoup.
C'est ce que j'ai lu, moi.
J'aime beaucoup, beaucoup d'étapes, en fait. Et du coup, maintenant, j'arrive à déléguer des choses qui sont beaucoup plus administratives ou qui concernent beaucoup plus la partie commerciale, entre guillemets, de YouTube ou des réseaux de manière générale. Mais moi, en tant que telle, j'adore réaliser, j'adore le montage. Et c'est quelque chose qui est très dur pour moi à déléguer parce que j'ai besoin, enfin, en tout cas, si j'ai un monteur un jour, il faudra vraiment que j'ai un feeling de fou. Bah oui, on se comprend directement.
En plus,
quoi.
Qu'on est habitué à travailler seul, c'est d'autant plus difficile après. Voilà.
C'est ça.
Comme en couple, quand on est célibataire pendant longtemps, savoir, après, on a beaucoup d'exigences par rapport à la personne. Au bout de 10 ans de célibat, quand on connaît la personne, on se dit, mais il y a que des choses qui vont pas, en fait. Et là, c'est un peu ça.
Je vous remercie beaucoup, Clara Runaway. C'était un plaisir,
ben
un honneur,
merci.
Un avantage de vous avoir reçu dans Pastèque.
Merci.
À très bientôt.
Merci de m'avoir reçu.
Continuez
avec plaisir.
À vivre de votre passion et à la transmettre.
Et nous, on va vous regarder, on va apprendre plein de choses.
Voilà.
Trop cool.
Ouais. À bientôt.
France Inter le samedi soir, Pastureau-Vizorek, c'est Pastèque.
Pastèque. Restez pas loin pour la mythique revue de presse qui arrive, mais c'est après le disque, Tanguy. Qu'est-ce qu'on va écouter ?
Vous aimez la moiteur ? Vous aimez la mollesse ?
Oui, j'aime tout ça.
J'ai Lana Del Rey pour vous, Watercolor Eyes.
Why you always doing that? Breaking up with me, then making up just to make me mad. I think that you taste like rock candy, sweet like peaches, leave me on sandy. Why do you leave me with water? Let don't make it right. Hot song.
can't keep us together. So what if you taste just like heaven? That don't make it right. Hot summer and cold watermelon. Your love stings like blood and a lemon. Why do you reap me with watercolor eyes?
Lana Del Rey sur France Inter, vous êtes dans Pastèque, abonnez-vous à notre chaîne Twitch, comme ça vous pourrez participer aux enregistrements quelque part, nous faisons 1h40 d'émission.
Plutôt que de rester bêtement passif.
Et oui, sur Twitch, quelques jours avant la diffusion du meilleur sur France Inter le samedi soir, et souvent le meilleur émane évidemment de notre mythique revue de presse. Quel est le premier magazine que vous avez sélectionné, Tanguy ?
Je commence par Gala. Alors, au départ, c'était pas prévu, mais on m'a provoqué. Alors, Gala, qui titre d'abord sur Meghan et Harry ? Ouais. Vous savez, ce sont
les arnaqueurs du Gotha. Mais quel titre provocateur ! Oui.
Alors, j'ai pas lu parce que je m'en fous de. Oui. Mais par contre, je suis allé voir les meilleures blagues des politiques, les présidents notamment. Oh. Alors, les présidents sont tous à fond sur la blagounette.
Oui.
Hein ? Oui, tous. Alors, Valéry Giscard d'Estaing. Par exemple, Valéry Giscard d'Estaing était un spécialiste des lapsus. Ah. Par exemple, il avait dit une érection, ça se prépare. Voilà, vous connaissez ça, hein, c'est assez célèbre. Mais Jacques Chirac était vraiment le spécialiste de la phrase culte. Oui. À quelqu'un qui, dans la rue, lui avait dit connard, il avait répondu enchanté, Chirac, moi c'est Jacques Chirac. Et ça, je trouve que c'est une classe. Non, mais ce genre de phrase, je trouve ça formidable.
C'est comme mort au con, vaste programme.
C'est ça, et on nous dit que François Hollande, l'ancien président, pratique beaucoup l'autodérision.
Oui,
j'ai envie de dire qu'il a plutôt intérêt à vu le bilan qu'il a fait, le loulou. Hein, si en plus il est content de lui. Alors, Emmanuel Macron.
Ah,
vous pensez qu'Emmanuel Macron n'est pas très drôle comme ça ?
Je le mettrais pas dans le top 3 des présidents. Mais...
Et en fait, il a eu cette petite phrase quand même sur la gauche et la droite. Vous savez qu'il a atomisé quand même ses deux pôles.
C'est vrai.
Et il a déclaré les deux grands partis, c'est l'amicale des boulistes, mais sans l'amitié et sans les boules.
Ah, voilà.
Et je trouvais ça plutôt marrant, plutôt bien trouvé comme phrase.
Et Sarko, on est sur l'humour noir.
Sarko, on est plus sur du sniping.
Exactement. Il va tout le monde.
Ouais. Du coup, c'est pas très drôle. C'est assez fiez-le.
C'est exactement.
C'est assez méchant.
Alors attention, il y a eu une demande cette semaine. C'est un Twitchos ou une pastèque qui m'a dit est-ce que tu pourrais peut-être t'intéresser aux pages économie de Playboy.
Fait.
C'est ce qui avait été demandé. Donc moi, quand on me donne une mission, je me lance et je me suis cogné tout Playboy. Donc ça fait 200 pages. C'est le hiver 2022.
Ah oui.
Et le problème, c'est qu'on peut pas bien le lire dans les trains, dans un sens ou dans l'autre, parce que sur la couverture devant, il y a une madame toute nue, en l'occurrence c'est Sonia Roland.
Oui.
Et sur la couverture derrière, il y a une autre madame toute nue qui fait de la pêche, mais pour éviter que l'hameçon se prenne dans les vêtements, elle n'a pas mis de vêtements pour être sûre de pouvoir pêcher.
Mais c'est pas mal d'ailleurs, je vois pas beaucoup de gens qui pêchent comme
ça. Elle a pêché de gros.
C'est pas l'image du tout que j'avais de la pêche.
Ouais. Elle a pêché de gros rougets. Donc, j'attaque par l'édito. Qui nous dit Flamby, source de malheur.
Ah.
Sachez qu'il y a un édito sur François Hollande. Mais oui, mon vieux, parce qu'en fait François Hollande avait dit qu'il ferait un interview pour Playboy.
Ah.
Et à un moment, l'éditorialiste en chef l'a appelé pour lui dire écoutez, est-ce que c'est possible?
On a bien lu votre message.
Il a téléphoné un dimanche. Ça a mis tout colère, mon François, qui le dimanche va chercher les croissances en scooter, je sais pas. Et donc il s'est énervé et l'interview est tombée à l'eau. Donc l'autre, il en a fait tout un papier, parce qu'il l'a appelé un dimanche matin, évidemment. On ne dérange pas quand même les gens le dimanche matin, si ce n'est que Hollande lui-même a appelé son attaché de presse, sans doute dans la foulée le dimanche matin, pour lui dire on fera pas Playboy. Ça, c'est un. Et alors, nous avons 7 pages d'interview d'auteurs très sérieux.
Ah, quand même.
Un sociologue et un journaliste, qui parlent de Zemmour et ils disent le principal problème d'Éric Zemmour est sexuel, disent-ils. Ah, explication, vous prenez ou vous prenez pas. C'est un homme qui souffre, qui regrette le bon temps où l'homme était le mâle dominant. Son problème n'est pas les étrangers, mais tous les corps parasites, la femme, l'homosexuel et l'étranger, qui l'empêchent d'exercer son pouvoir. Donc apparemment, c'est Éric Zemmour est une pulsion sexuelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ma lecture de Playboy ? Que oui, il y a des dames qui pêchent nues, qui montent à cheval nues, qui conduisent nues, mais l'essentiel du magazine est composé de longs articles, plutôt intello, et ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il n'y a pas de page écho dans Playboy. Ils m'ont fait lire 224 pages pour que je ne trouve rien. Voilà. Donc, merci.
Qu'est-ce que vous en faites
à nos auditeurs ? Non, je vais vous le donner.
Et les rougets ?
Tanguy.
J'ai Paris Match.
Oh,
j'ai Paris Match.
J'étais inquiet. Je me dis, il n'a pas ouvert par Paris Match.
Si, je l'ai ouvert. On est sur le prince Charles.
Très bien.
Vous savez qu'il est en ce moment empêtré dans une affaire pas possible. C'est-à-dire qu'il est accusé, en fait, par rapport aux Saoudiens, contre des millions de livres sterling qui arrivaient par le biais de sa fondation, de leur avoir délivré des titres. Sœur, ceci,
oui,
sœur, cela, etc. Voilà.
Ça remonte, cette histoire. Voilà, c'est un
gros scandale. Hein, Mais non, là, c'est récent parce que quand même, on vient de l'apprendre. Ça a été, voilà. Et donc, du coup, l'anniversaire de la reine, ça passe, enfin le jubilé, tout ça, un peu à la trappe. C'est très compliqué ça, en ce moment, mais heureusement, Stephen Bern veille. Et Stephen Bern a écrit sur Charles, alors c'est bien fait,
ça
c'est magnifique.
Aller,
alors on voit Charles en image qui est en smoking, avec une pochette qui lui sort de la veste, il est très très élégant. Et Stephen Bern nous dit, à 73 ans, il n'est pas si vieux jeu. Non, le prince Charles écoute Vianney, il porte des boxeurs, il dit titre, quand quelqu'un lui dit par où t'es entré, on t'a pas vu sortir, enfin vraiment, il est très jeune. Et Stephen Bern, donc, ce qui est intéressant dans Paris Match, c'est qu'il imagine quels pourraient être les débuts de ce jeune roi septuagénaire, en fait, puisqu'il n'a encore jamais exercé, jamais travaillé.
Et c'est vrai qu'il pourrait débarquer.
Alors il s'est lâché, et puis il imagine un petit peu ce qui se passe. Alors par contre, la réalité, c'est que donc Camilla Parker Bowles, donc sa femme, une fois que Charles accédera au trône, sera du coup reine, puisque Elisabeth II en a décidé ainsi.
Ouais.
Elle portera le joyau des reines surmonté du célèbre Koh-i-Noor, le diamant de 105,6 carats. Hein, donc je le dis pour les gens, peut-être les arracheurs de colliers, c'est à ce moment-là qu'il faut... Non, bien sûr, on ne peut pas dire ça. Donc il est prêt à travailler. Actuellement, Charles se prépare à régner, mais dit Stephen Bern, se préparer jusqu'à quand ? Et la
je
reine.
Je pense qu'il va être prêt.
Voilà, la
je
reine a déclaré dans la plénitude des temps. Hein, ce qui veut dire qu'elle n'est pas prête de clancer et
tu
qu'elle
peux
tient.
Te la coller alors, derrière l'oreille.
Voilà, c'est assez vague. Voilà, c'est assez vague. On n'en sait pas plus. En tout cas, Stephen Bern nous le dit. Charles sera un roi de transition. Puis très vite, il passera évidemment
William.
La couronne à William,
bien
son
sûr.
Fils, qui lui se prépare encore plus activement, je suppose. Alors, très rapidement, je vais vous parler de l'Express, où il y a un article intéressant sur les robots, en fait, aux États-Unis qui traquent des migrants. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que le mur de Trump n'a pas pu se faire, puisqu'en fait, on s'est aperçu, en fait, qu'il y avait des coins escarpés où c'était impossible de monter le mur, ou des zones inondables. Donc, il y a des bouts de mur. Ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, les gens qui veulent entrer, ils finissent par entrer en longeant le mur.
C'est le principe de la ligne Maginot.
Voilà. Donc, c'est complètement idiot. Résultat de Joe Biden, qui n'est pas non plus contre l'idée du mur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que là, il y a une accélération des migrations. Plus de 1,7 million de personnes ont été appréhendées en un an entre octobre 2020 et septembre 2021. Donc, vous voyez, tout le monde veut aller aux États-Unis. C'est l'effet States, hein, tout simplement. Et ils ont créé Fido le robot. Alors, c'est un robot chien. En fait, ça ressemble plus à une araignée géante, à vrai dire. Ça fait un peu peur.
Et Fido, comme la posture d'un Doberman.
Fido le robot, attention, ne va pas traquer les migrants dans le sens où il n'y a pas les arrêter, etc. Mais il a déjà été testé avec un fusil et il arrive à tirer quand même. Donc, il ne va pas tirer sur les migrants, bien sûr.
Mais
il va accompagner les forces de police le long de la frontière pour faire un peu peur, parce qu'on a plus peur d'un robot que d'un Américain. Moi, j'ai peur des Américains. Mais les gens ont plus peur des robots. Je veux dire, voilà, c'est comme ça.
Le robot chien fait moins peur quand
voilà,
même.
Voilà, ce robot va dissuader les Mexicains et autres Panaméens d'entrer comme ça aux États-Unis. Et alors, quand même, il a été testé. Le problème, c'est qu'il bug. Fido le robot avance lentement et sa batterie, malheureusement, a une durée de vie
très limité, mais surtout récemment, lors d'une alerte à la bombe, ils l'ont testé, donc il s'est cassé la figure d'abord, et ensuite il s'est mis en position assise et a refusé de s'approcher de la valise piégée. Voilà, donc en fait, Fido le robot,
il est courageux comme
il vit sa vie exactement comme il le souhaite. Ouais, hein, il a déjà une grande autonomie, en fait.
Mais il fait la différence entre un Panaméen et... Imaginez, vous oui, baladez, vous, dans les montagnes pour...
Non, il est raciste.
Oui, ah d'accord.
Il est raciste, on lui a appris les bases, on lui a montré des photos d'hommes blancs en disant ça, c'est super, c'est, voilà, et puis d'autres gens en disant, alors là, vraiment...
Surtout pas.
C'est pas la peine. Et donc, okay, il tire surtout les gens, bon, qui ne sont pas blancs. Steak. Allez, dernière info.
Matoucha, c'est une demande régulière des gens. Évidemment, j'ai lu le numéro 46. C'est beaucoup de photos de chats. Ça, oui. Je ne veux pas vous arnaquer.
Il faut aimer les chats.
Il faut aimer les chats. On est sur le février-mars. Qui dit février-mars dit Saint-Valentin.
Hein, ah.
Et on est tout de suite rassurés. Philo et Choupette sont toujours en amour. Si, mais si, parce que...
Choupette, oui, c'est pas la Choupette
les
bébés.
De...
Oui, non, c'est un couple de chats que Matoucha suit depuis...
Depuis leur rencontre.
Depuis 17 ans qu'ils s'aiment. Philo, oh là là, oui. C'est long.
C'est super long.
Une vie de chat, c'est à mon avis, ils n'ont rencontré aucun autre chat.
Ça vit combien de temps, un chat?
Bah, 18, à mon avis.
C'est le vieux couple. Alors,
Jusqu'à ce que la mort nous sépare.
On nous dit dans Matoucha qu'ils vivent collés serrés, comme dans la chanson de Laurent Voulzy et Alain Souchon. Mais quelle est donc cette chanson? Car
elle est chantée par Philippe Laville et Jocelyne Béraud.
Donc, je n'ai aucune idée.
J'aurais dit Francky Vincent
c'est Philippe Laville et Jocelyne Béraud.
Du groupe Kassab. Il a peut-être du coup pris Voulzy pour Jocelyne Béraud et donc Philippe Laville pour Souchon.
Oh là là.
Oui, Matoucha, c'est pas
des fans de musique.
C'est pas des grands spécialistes. Mais ils vont bien, et comme disait la couverture de février 2018, où déjà on avait parlé de leurs amours, ils sont faits l'un pour l'autre.
Oh non!
Eh oui!
Oh non!
Eh ben oui, parce que Matoucha, c'est aussi du rire. Vous l'avez, Pasturo, ou pas?
Félin. C'est comme les devantures de coiffeur, je mets toujours 30 secondes avant de comprendre le jeu de mots. Vous savez qu'ils font un abreuvoir connecté? Pour chat?
Eh ben voilà.
C'est fou, hein?
Bah oui! En fait, la puce du chat réagit et le truc s'ouvre.
Ah, c'est génial.
Une dernière info pour vous, Tanguy?
Non, ça y est, merci, on va rester là-dessus.
Oui, on va rester.
Oui, parce que c'est. Non, mais.
Merci!
Où il est votre Playboy avec les rouges, là?
Je vais vous donner le Playboy.
Bon, je vous laisse le Matoucha.
On fait comme ça.
Oh,
merci
Dieu.
Beaucoup.
Merci Lulu.
Mais merci à tous les deux.
Merci les pastèques. Merci Tanguy Pasturo. Et
merci,
on se retrouve la semaine prochaine sur Twitch mercredi à 18h45 et sur France Inter évidemment samedi 19h. Merci aussi à Lucie Marceau alias Lulu2 pour la modération du chat. Cette émission a été préparée par Hugo Combe avec l'aide de Marie Pluchet à la doc d'actu de Radio France. Elle a été réalisée par Théo Raison. Merci à Thierry Dupin pour sa programmation musicale. À la technique aujourd'hui, c'était Juliette Delperroux et Alix Barrois. À la semaine prochaine.